Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Nous sommes le lundi de Pâques et en principe une séquence politique un peu étrange et inattendue devrait prendre fin dans les prochaines heures. Car depuis une semaine et l'incendie de Notre-Dame de Paris, le temps politique français est comme suspendu. Et pourtant les sujets ne manquent pas entre la campagne pour les élections européennes et les fuites sur les réponses présidentielles aux Gilets jaunes et au grand débat national. C'est en principe pour ce jeudi, sauf événement d'actualité inattendue de grande ampleur. Tous les acteurs politiques ont dû s'adapter à un calendrier un peu bouleversé. Comment a été gérée cette séquence politique entre émotion et communication? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Frédéric Michaud, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département Opinion et Politique d'Opinionway. Et Philippe Marek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Est-Créteil, spécialisé en communication politique, directeur du Centre d'études comparées en communication politique et publique et auteur de « Communication et marketing de l'homme politique ». C'est aux éditions LexisNexis.
Tout à fait.
Difficile de qualifier ou de définir politiquement le mouvement que nous venons de passer avec un événement qui s'impose à tous. Une trêve politique plus ou moins respectée, le tout en pleine campagne électorale pour les européennes, et alors que les annonces présidentielles sont attendues. Comment est-ce que vous appréhendez cette semaine qui vient de se dérouler, Philippe Marek?
Eh bien, écoutez, lorsqu'une crise se produit, de toutes les façons, le président doit réagir. Ça m'a fait penser à François Hollande, avec qui s'était retrouvé devant les événements terroristes que vous savez. À la différence près, mais ça c'est Monsieur d'Opinionway qui pourra répondre, que dans mon souvenir, la courbe de popularité de François Hollande, elle avait rebondi instantanément, pour d'ailleurs descendre aussi rapidement quelques semaines après, alors que, si j'ai bien compris, là, la gestion de la crise n'a pas vraiment profiter en sondage, en tout cas, au président de la République.
Frédéric Michaud, allez-y, la question vous a été posée directement, allez-y.
Oui, le parallèle est tout à fait justifié. Et là, ce qui vient de se passer, c'est la survenance d'un événement historique, dont par nature, qui était imprévu, et le rôle du politique, c'est de s'adapter à la survenance de cet événement. Il n'y a aucune traduction dans les enquêtes d'opinion. La popularité du président de la République, que nous avons mesurée la semaine dernière, est à son niveau plancher. 27% des Français sont satisfaits. Il y avait eu effectivement au moment des attentats, alors c'était un événement d'une autre ampleur encore que l'incendie de Notre-Dame, il y avait eu en 2015 un pic de popularité qui n'avait été que temporaire pour le président Hollande. Là en l'occurrence, le président Macron n'en profite même pas, et on voit bien que cette parenthèse est sur le point de se refermer. Elle sera définitivement close avec la conférence de presse de la semaine, enfin de jeudi.
En principe, sauf incendie majeur quelque part. Enfin, on ne le souhaite pas, évidemment. Diriez-vous, Philippe Marek, que le président de la République a subi, dans la mesure où il avait un plan de communication avant cet incendie pour faire ses annonces suite au grand débat national, diriez-vous qu'il a subi, dans la mesure où son plan de communication a été bouleversé?
Écoutez, je pense qu'il y a quand même une différence. En quelques années, moi je mets ça beaucoup sur le compte des réseaux sociaux. C'est-à-dire que il n'y a eu que quelques années entre les événements de novembre et aujourd'hui, mais les réseaux sociaux ont pris une importance considérable. Et le fait que à peine l'événement survenu, on commence déjà à critiquer sur les réseaux sociaux les dons, la déductabilité, et aussi vite, je pense que je cherche une explication, si vous voulez, cette différence entre l'événement qui a permis à François Hollande de rebondir, même temporairement, et là, le fait que, au fond, ça a semblé être un événement comme les autres, en tout cas du point de vue de la popularité de Emmanuel Macron, et je ne vois que ça comme différence. C'est l'importance des réseaux sociaux qui se mettent immédiatement sur le sujet critique. Regardez ce qui s'est passé avec cette photo là, je ne sais pas si vous avez vu, qu'on a tiré d'une petite bande vidéo un extrait avec une photo où
il y avait un individu,
voilà,
et c'est peut-être un pompier.
Ou Macron, et non l'autre, il y a autre chose.
C'était une statue alors.
Il y a autre chose, la photo qui a été prise où Macron et Édouard Philippe semblent rire.
Une photo tirée de son contexte.
Tirée du contexte et qui donne lieu, si vous regardez un peu sur Internet, à des pages et des pages dans les réseaux sociaux de façon extrêmement négative. Donc je pense que c'est ça la vraie différence.
Frédéric Michaud, est-ce que vous nous dites, et vous l'avez mesuré, qu'il n'y a eu aucune conséquence sur la cote de popularité
à court terme
d'Emmanuel Macron, est-ce que il a surréagi par rapport à ce que les Français en ont pensé? Est-ce que vous avez mesuré, vous avez fait des sondages là-dessus sur ce que les Français ont pensé de cet incendie, ou est-ce qu'il en a fait un petit peu trop? Voilà, je pose la question.
En fait, il faut bien distinguer dans la communication présidentielle les deux temps. Il y a un temps qui est celui de l'événement, avec une prise de parole spontanée sur place, le jour même, qui, à mon avis, correspond plutôt à ce qu'on attend de la fonction présidentielle, c'est-à-dire incarner l'union nationale, exprimer une émotion, retranscrire des sentiments collectifs, mettre en mots cette émotion que peut partager la grande majorité des citoyens.
Ça, c'est pour la réaction immédiate le soir même.
Hein. Avec beaucoup de spontanéité, il a trouvé les mots justes, et j'ai trouvé que c'était plutôt sincère. En revanche, la deuxième prise de parole, le lendemain, beaucoup plus solennel, plus institutionnel, me semblait plus superflu, n'était pas nécessaire, à mon sens, de faire une allocution présidentielle pour prendre date et pour reporter la prise de parole dédiée au diagnostic et aux annonces concernant le grand débat.
Philippe Larec, cette intervention télévisée du lendemain ou du surlendemain, pour dire quoi, en fait? Parce que je vous avoue que nous, ici, dans la rédaction, on s'est posé la question, en fait. Hein.
Bah écoutez, je me la suis posée aussi, parce qu'au fond, il y avait que deux choses dans cette intervention. La répétition, en gros, de tout ce qu'on savait déjà sur Notre-Dame, et peut-être l'annonce des 5 ans, et surtout, comme si le président n'avait pas pu s'en empêcher, une sorte de début de fustigation du fait que les Gilets jaunes, au fond, dérangeaient le calendrier, et qu'il fallait quand même en parler, donc effectivement, on peut se demander si cette intervention était vraiment utile.
Une intervention télévisée qui, c'est pas très révérent à la Ve République, ce que je vais dire, qui ne dit pas grand-chose. Brigitte Macron qui va à la messe à Saint-Sulpice. Est-ce que ça, il y a toujours une interprétation politique dans une communication, dans un geste du président de la République ou de son entourage. Est-ce qu'il y a une volonté de parler à une frange de l'opinion qui est peut-être la jambe droite d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous diriez ça, Frédéric Michaud?
Non, peut-être pas. Là, je pense que c'était plutôt un geste qui est plus spontané, qui est dans le prolongement de l'émotion par l'incendie. Je reviens sur l'allocution présidentielle et cet horizon temporel des 5 ans qui m'a semblé peut-être une promesse à double tranchant. C'est bien parce que ça renvoie à un volontarisme et on a besoin de volontarisme, mais en revanche ça m'a fait penser à d'autres promesses tenues par des présidents auparavant avec des horizons temporels extrêmement bien définis. Je pense notamment au prédécesseur d'Emmanuel Macron avec cette promesse d'inversion de la courbe du chômage pendant le quinquennat. Ce type de promesse souvent se retourne contre son auteur. Il y a quelque chose là d'un peu dangereux. Et puis, par ailleurs, on aimerait avoir le même volontarisme sur des sujets qui sont autrement plus importants pour l'avenir de la nation, le chômage, la dette,
là,
les déficits publics, etc.
Vous parlez comme les Gilets jaunes. Vous parlez comme les Gilets jaunes. Ceci étant dit, la promesse de 5 ans, elle n'est pas si violente que ça, dans la mesure où c'était après son mandat actuel. Mm-hmm. Donc on ne peut pas quand même dire que c'est tout à fait aussi aussi clivant, je dirais. En revanche, c'est vrai que à part les 5 ans, il n'y avait rien dans cette intervention.
Frédéric Michaud, vous allez pouvoir répondre sur l'aspect gilet jaune, mais est-ce que pour peut-être aller dans votre sens, est-ce que finalement dans toutes les études que vous avez pu faire pendant le grand débat national, pendant ces dernières semaines, est-ce que ça fait partie le patrimoine, même si c'est nouveau, des sujets qui viennent en tête de priorité des Français?
Non, c'est plutôt un sujet secondaire, même à l'arrière-plan des préoccupations des Français, même si évidemment sur le plan symbolique, ça peut renvoyer à un attachement qui est profond. C'est évidemment, le patrimoine a une place très particulière dans la société, dans la culture française.
C'est quand on ne l'a plus qu'on s'aperçoit qu'elle pense à compter, c'est ce que vous êtes en train de nous dire pratiquement.
Oui, alors enfin, il faut se méfier aussi d'un symbole symbolisme qui est peut-être trop marqué. Hein. Là, en l'occurrence, les tours ne se sont pas effondrées. Il y a un incendie. Bon, mais voilà, c'est quelque chose de marquant pour l'opinion publique. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a, ce sursaut que le président de la République veut incarner et veut impulser, notamment à travers cette promesse. Alors, je ne crois pas que ce soit ni une promesse démagogique, ni une promesse inconsidérée, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu dangereux dans le fait de s'engager sur un horizon temporel aussi, aussi défini, mais finalement tout cela n'a pas grande importance.
Philippe Marek, vous vouliez réagir là-dessus.
Je voulais juste signaler, je pense quand même que l'incendie de Notre-Dame a une portée un peu plus forte. N'oubliez pas que ça vient après 2 ans de travail. Il y a eu Stéphane Bern avec la loterie du patrimoine, enfin le loto du patrimoine qui a fort bien marché et il y a une nouvelle action. Donc le hasard fait que quand même l'incendie de Notre-Dame est arrivé à un moment où peut-être il a eu beaucoup plus de retentissement auprès de la population qu'il n'en eut eu il y a 2 ans. On a quand même beaucoup parlé de patrimoine grâce à Stéphane Bern, grâce au loto du patrimoine qui a relativement bien marché, si j'ai bien compris, en plus avec le fait que Stéphane Bern se soit élevé contre la taxation, on en a beaucoup beaucoup parlé, donc je pense que et puis il y a quand même eu des promesses de donations, des petites donations très importantes, donc je pense que Notre-Dame a brûlé, si j'ose dire, au bon moment pour une reconstruction.
Alors, l'Union nationale ne dure jamais bien longtemps en France, Frédéric Michaud, c'est la France, hein, c'est un pays qui aime le débat, qui aime discuter, en appeler à cette union nationale, est-ce que c'est une façon de tenter de calmer un pays fracturé ou de prendre le moment à son compte, de redevenir le maître des horloges, comme le théorisait Emmanuel Macron, c'est en disant, ben voilà, pendant une semaine on s'arrête et on voilà. Non, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ben alors là aussi, ça c'est classique, ça correspond à la fonction présidentielle, le rôle d'unificateur de la nation, c'est typiquement ce qu'on attend d'un chef de l'État. Mais je crois que y a un aspect plus stratégique, c'est celui que vous venez d'évoquer. Il y a aussi la volonté pour Emmanuel Macron, après avoir subi le rythme des événements, de réimposer son propre rythme, qui n'est d'ailleurs pas celui des réseaux sociaux auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure. On voit bien qu'on est dans une impatience généralisée. D'ailleurs, qui a été amplifié par ses fuites ou ses indiscrétions à l'égard des différentes mesures qu'il aurait pu annoncer. Mais là, il y a une contradiction entre ce temps présidentiel, en tout cas cette volonté présidentielle de prendre le temps, et puis les réseaux sociaux qui sont dans l'impatience de l'immédiat. De ce point de vue-là, on peut dire aussi que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est une situation très difficile pour le chef de l'État parce qu'il a dû gérer les effets d'une annonce qu'il n'a pas faite. Oui. Par conséquent, voilà, toute la difficulté est là. Il y a quelques mesures qui ont été dévoilées, mais sans qu'on puisse avoir la vision d'ensemble, la ligne directrice qui donne toute la cohérence à ces annonces. C'est ce qu'il essaiera de corriger jeudi.
Alors, Philippe Marek, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il s'est bien adapté à cet événement inattendu? Est-ce qu'il est redevenu le maître des horloges? Est-ce qu'il a repris le tempo à son compte, Emmanuel Macron? Parce que c'est vrai que même si la majorité refuse de le reconnaître depuis des mois et des mois, Emmanuel Macron subit quand même les événements. Depuis l'affaire Benalla.
Oui, on peut faire remonter ça, effectivement, à l'affaire Benalla. Je suis pas sûr que la motivation Union nationale est vraiment marché paradoxalement. Autant je disais que il y a eu un élan de compassion vers la destruction de Notre-Dame, autant je pense que Macron était de toutes les façons devant une solution, une absence de solution. S'il avait fait sa déclaration au moment où Notre-Dame brûlait, elle aurait disparu dans les flammes, si j'ose dire. Et malheureusement pour lui, le fait que un certain nombre d'éléments est apparemment circulé de façon très fragmentaire, a fait penser au catalogue de la redoute qu'on reprochait parfois à François Hollande, parce qu'en plus, effectivement, comme le disait Monsieur Michaud, il n'y a aucune cohérence dans les choses qui ont été annoncées. Donc il y a un gros travail de communication à faire maintenant le 25 avril pour essayer de remettre ça d'aplomb. Et moi je serais, si j'ose dire, Emmanuel Macron, je lancerais tout à fait autre chose et je n'annoncerais qu'une ou deux mesures fortes qui n'ont rien à voir avec ce qui a été annoncé. Mais ça, je ne suis pas un de ses conseillers.
À la limite, on peut presque dire que c'est un point positif, s'il y en a un pour le chef de l'État, c'est que ces fuites ou ces indiscrétions, il faudra peut-être clarifier leur origine ou leur source.
On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Ça arrive. Hein. On entend quand même parler de pas mal de ballons d'essai ces jours-ci.
Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est que le fait que tout ça, d'une manière ou d'une autre, se soit retrouvé dans le débat public, ça a permis au chef de l'État, à l'exécutif, de tester les réactions et peut-être de corriger d'ajuster le tir pour la conférence de presse qui aura lieu jeudi.
Mais Philippe Marek, justement, est-ce que ça ne donne pas, vous qui êtes spécialiste de communication politique, un petit sentiment d'improvisation?
Écoutez,
on ne sait pas tellement comment on essaye des choses. Voilà.
Écoutez, quand on est président de la République, je crois que on se lève le matin. Vous savez, un homme politique américain avait dit quand on est législateur, on se lève le matin en se demandant de quoi on va pouvoir faire parler de soi aujourd'hui. Mais quand on est président de la République, on se lève le matin en se disant qu'est-ce qu'on va avoir comme problème à régler aujourd'hui. Donc, je ne crois pas qu'on puisse là-dessus beaucoup critiquer Emmanuel Macron. Il est clair que quand on est président de la République, il y a un niveau d'ennuis et de choses à régler chaque jour qui font qu'on ne peut pas non plus avoir une communication publique lisse comme on l'espérerait, évidemment.
Le président Frédéric Michaud est hyper présent depuis plusieurs semaines. Hein. On a vu ces débats fleuves sur les chaînes d'infos. Quelles conséquences dans les études d'opinion? Vous venez de nous dire en fait qu'il était à son niveau plancher. Ça a monté un petit peu, puis serve
voilà, exactement. Il y a eu sans doute un effet lié à la présence, à la très grande visibilité médiatique du président de la République, un petit effet dans les enquêtes d'opinion qu'on connaît bien, hein, qui est bien documenté. On sait que bon, il y a un petit bond comme ça de quelques points. On sait aussi qu'il est transitoire, et dès que on retrouve un rythme de communication, de médiatisation normale, on retrouve le cours régulier de la popularité, en l'occurrence de l'impopularité du chef de l'État.
Et les autres partis, comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'ils sont audibles finalement dans tout ça, Philippe Marek?
Écoutez, on a surtout entendu, si je me souviens bien, Éric Ciotti parler ces jours-ci justement des excès de, enfin considérer que Macron avait fait un excès de et qui profitait trop de la situation, mais les autres partis n'ont pas vraiment, à ma connaissance, eu de réaction véritablement audible.
Vous diriez ça? Il y a aucun rebond pour les autres partis, Frédéric Michaud, dans les enquêtes?
Non, je dirais que là le rebond se fait pas sur Notre-Dame, parce qu'il n'y a pas grand-chose à critiquer ou à dire de la part de... Et puis il y a aussi, c'est quand même une aspiration très très forte à l'Union nationale qui est ressentie par tous. Non, je dirais que plutôt, on a bien vu le débat essayer de se décaler sur ces pseudo-annonces qui ont transpiré dans la presse, le cas symbolique de la suppression de l'ENA, les baisses d'impôts autour peut-être d'une thématique, c'est-à-dire tout ça pour ça, ou pour le dire autrement, le fait que ces mesures annoncées ou ces mesures éventuelles, hypothétiques, n'étaient pas justement en adéquation avec les attentes.
Comment en sortir maintenant, Philippe Marek, en quelques secondes, après l'unité, après les fuites, des mesures clivantes, une ou deux, c'est ce que vous disiez?
Ah, moi, je pense qu'il faudrait...
Au risque de briser l'unité?
Il faudrait autre chose, il faudrait laisser tomber le catalogue de la redoute et prendre une posture présidentielle, mais cette fois, du point de vue politique.
Frédéric Michaud.
Moi, je dirais trois choses. Un diagnostic clair, parce qu'on attend aussi du chef de l'État ses conclusions du grand débat. Ensuite, évidemment, une vision, et puis quelques annonces, évidemment pas le catalogue, comme vous venez de le dire, mais quelques annonces fortes pour soutenir cette vision globale.
Merci. Merci Frédéric Michaud, merci Philippe Marek d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.